France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est maintenant le début de la saison des fromages de chèvre.
Enfin, vraiment.
Il y a une saison donc.
La production laitière en chèvre suit en théorie la saison de reproduction des chèvres, de septembre à novembre à peu près, quand les boucs sont introduits. Et les mises bas arrivent en février-mars. Et ils peuvent sortir pour, une fois sevrés, autour de mai, brouter l'herbe dehors. Ce qui fait que de mi-décembre à mi-février, fin février, on n'a plus aucune production laitière.
Il est à toi le fromage dans le frigo?
Ouais, c'est un fromage de chèvre.
De la merde, ton fromage de merde.
Bref.
Aujourd'hui, le Sainte-Maure de Touraine, c'est un des fromages de chèvre qui est le plus connu.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ils sont 16. 16 fromages de chèvre de toutes les régions de France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée, AOP. Chavignol, Rocamadour, Rigotte de Condrieu, Bannon, Pélardon, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Et celui qui les connaît par cœur, c'est Pierre Coulon. Bonjour.
Bonjour.
Ça va Pierre?
Très bien, et vous?
Vous êtes notre spécialiste des fromages et des produits laitiers dans l'émission. Vous avez signé Le Bon Savoir du Fromage aux éditions First, qui est bien en place derrière moi, dans ma bibliothèque de mon bureau de France Inter. C'est une encyclopédie très fouillé sur les fromages. Et le fromage de chèvre, vous le connaissez très bien, vous avez même été chevrier, vous allez nous raconter. Vous fabriquez du fromage de chèvre à la laiterie de Paris que vous avez fondée dans le 18e arrondissement de Paris. Je crois savoir que le chèvre frais, miel, zaatar, noisette est un best-seller.
Oui, c'est sûrement une de nos meilleures ventes. On joue beaucoup avec le fromage de chèvre.
Vous jouez beaucoup avec le fromage de chèvre et vous apprenez même la fabrication du fromage de chèvre à des artisans à l'autre bout du monde, au Brésil.
Là, je reviens de Sao Paulo, ouais, sur une formation spéciale fromage de chèvre.
Allez suivre Pierre Coulon sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre compte Instagram?
Alors, il y a la laiterie de Paris, puis il y a mon réseau à moi, Pierre Coulon.
Absolument. Comment la France est devenue le pays du fromage de chèvre par excellence? Comment il s'affine, se consomme, se cuisine? On va passer en revue nos 16 fromages de chèvre à AOP. On va aussi s'intéresser à la réalité du fromage de chèvre, y compris industriel, qui n'est pas toujours rose. On va le voir avec vous. Et puis on va les cuisiner ensemble, ces fromages de chèvre, avec des recettes simples, voire assez bluffantes. J'aime beaucoup nos recettes du jour. Parmi nos fromages de chèvre à AOP, il y en a un sur lequel j'ai jeté mon dévolu. C'est le Sainte-Maure de Touraine. Je vous emmène à la découverte d'un jeune couple qui a repris il y a peu une ferme dans le Berry pour fabriquer un Sainte-Maure de Touraine fermier et bio. Marion et Léon Roche de la ferme de la Cagnonnière. Un reportage à découvrir dans cette émission. Et pour nous accompagner aujourd'hui, notre chroniqueuse vin, Justine Knapp. Bonjour Justine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui?
Aujourd'hui, un accord sans trop de bruit.
Sans trop de bruit, on va le voir. On peut peut-être parler d'un vin blanc, mais on va essayer de le faire déguster à l'aveugle. Vous avez des questions sur le fromage de chèvre ou une recette à nous suggérer? Réagissez en direct dans notre émission sur franceinter.fr ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com et retrouvez tous les contenus de notre émission, nos infos, nos recettes, nos adresses, nos podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de déguster, cuisiner nos fromages de chèvre, une petite surprise à vos bols, chers amis, sous vos micros, vous avez une petite surprise gourmande. Alors, il y a peut-être un rapport avec le fromage quand même.
On est dans
Justine
l'univers.
Et Pierre, oui.
On est dans l'univers, c'est d'une légèreté, François-Régis.
Oui, c'est vrai.
Ça me rappelle la technologie du dry cheese avec laquelle on fait les mauvais parmesans dans les épiceries de nuit.
Oui.
On fait sécher du
Très
fromage.
Je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, il y a de ça.
On va goûter. Hein,
allez-y.
C'est comme des petites meringues. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est morcelé dans la
croque,
petite coupelle.
Hein.
Et si je la secoue, effectivement, c'est dur sous la dent, mais ça fond et ça donne en bouche... des notes très fromagères. Moi, ça me semble plutôt persillé de mon côté, je ne sais pas.
Bien vu, Justine. Est-ce que vous vous lanceriez dans un fromage français d'appellation d'origine protégée? Vous avez parlé de fromage persillé, fromage bleu.
Peut-être du côté Roquefort.
Bien joué, Roquefort. Bravo, Justine. Du côté
Pierre,
ça se passe comment?
Alors, c'est pas persillé, c'est rigolo, c'est apéritif. Hein.
Oui.
C'est blanc, donc ça pourrait être un camembert, ça pourrait être un brie.
Bien joué.
On est loin de l'univers du goût du camembert, parce que malgré tout, on sent qu'il y a une action de déshydratation qui change un peu les arômes et qui l'amène un peu dans l'univers un peu drôle des gâteaux apéro.
Et ben voilà, ben vous avez tout dit, hein, vous êtes fort. Camembert de Normandie AOP du côté de Pierre Coulon. Roquefort, vous l'avez dit, je peux même vous dire que ça vient de chez Gabriel Coulet du côté de Justine Knapp. Alors, ce sont deux fromages donc AOP, hein, pas du tout dans leurs conditions habituelles de fromage de plateau, mais dans un drôle d'état, un peu croquant, craquant. Qu'est-ce qui leur est arrivé à votre avis ?
Ils ont été déshydratés.
Oui, ils ont été plus précisément lyophilisé.
Ah oui. Okay.
Alors pour être honnête, quand Fabrice Rivaud, qui prépare l'émission avec moi, m'a présenté la chose dans mon bureau, j'étais un peu sceptique, je vous montre les paquets. Je pensais avoir affaire à un gadget, on ouvre le paquet, on goûte, on fait tourner le paquet, il y a ma réalisatrice qui dit « je trouve ça pas mal en fait », Laurent Tomac derrière, avec son casque sur les oreilles, qui dit « ah mais c'est pas mal du tout en fait ». Eh bien ils sont effectivement lyophilisés, et la lyophilisation c'est un procédé ancestral qui consiste à éliminer l'eau d'un produit à très basse température et à basse pression. On garde le goût et l'authenticité des produits, et donc ça donne un fromage en version nomade ou grignotage pour l'apéro, vous l'avez parfaitement dit Pierre. Et ça s'appelle Croque et Craque, c'est la nouvelle gamme d'une marque très artisanale qui s'appelle Marie de Livignac, qui est basée dans la commune de Livignac-le-Haut, dans l'Aveyron, et qui nous propose cette innovation. Avec cet argument marketing massu, alors ça, bon, je me dis, ah bah tiens, en plus, on va favoriser l'exportation des fromages AOP dans le monde par le fait qu'on les lyophilise. Je sais pas s'il faut tous les lyophiliser. En tous les cas, j'ai trouvé ça assez marrant et assez plaisant, assez distrayant sous la dent. Pour l'instant, il y a trois fromages AOP qui sont passés par la case lyophilisation. Il y a donc le Laïol, il y a l'Aïol AOP, ça, je vous l'ai pas fait goûter. Il y a le Camembert de Normandie AOP et il y a effectivement le Roquefort AOP, croque et craque, voilà, à retrouver très bientôt dans de nombreuses épiceries fines. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission en direct avec à la technique l'ami Guillaume Roux, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission, les fromages de chèvre. Juste après, une petite balade sympatoche, le fil de François and the Atlas Mountains, choisi par Djoubaka sur notre playlist. Bon appétit sur France Inter.
J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet de vie s'enfuir jamais. La foule folle alliée, tribu de cinglés. Je veux prendre les choses en main, pour leur faut juste se tailler, se tailler, se tailler. Mais les voiles plient sous le poids des années. Les mains sont un fatras de combine alambiquée. Courir vers toi un temps, le temps de tout dépenser. Au pied d'un mur d'argent, s'évader dans ses pensées. Respire le parfum de tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Cette fille agile, déroule en main de le fil. J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet passé entre les mailles du filet. Tu dis que je saute des cases, mais je vais pas seul poireauter. Je passe de point de paroter, GPS coordonné. Je m'en cogne, mon cœur est une boussole, je suis magnétisé. Tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu le style qui pline entre les cils, cette fille agile, déroule en mer de le fil. Cette fille agile, déroule en main de le fil. style qui cligne entre les cils. Cette fille agile, déroule et remêle le fil.
Pour plonger dans l'univers des fromages de chèvre, rien de tel qu'un et rien de tel qu'un joli triangle blanc, frais, d'un blanc vraiment immaculé. Ce sont des fromages de chèvre de votre propre production. Pierre Coulon, racontez-nous.
Alors oui, on les a fabriqués la semaine dernière. Et donc là, il y a une version qu'on a fait en le faisant, alors pas vieillir, parce que ça fait 3 heures que j'ai fait ça, c'est une recette très simple, en l'enveloppant dans une feuille de figue, de figuier.
Incroyable. Donc, alors, vous goûtez Justine, parce que précisons qu'à la laiterie de Paris, 18e arrondissement, de la capitale, vous fabriquez du fromage de chèvre.
On reçoit le lait tous les mardis, du lait cru. Donc là, c'est un fromage de chèvre frais au lait cru, hein, qui
vous
a été moulé de Bretagne, du gars Gaoric de chez Christine, qui est en bio, et qui nous fait ce super lait. Et donc là, c'était l'occasion de jouer un peu avec, parce que la saison des figues, nous, en Normandie, elle commence pas encore trop, mais il y a les feuilles qui sont là. Et c'est vrai que cet univers de la figue est souvent proche du chèvre. On peut même faire cailler les fromages au lait, avec la sève de figuier, comme on fait en Italie. Mais nous, on a fait plus simple. On a simplement ébouillanté une feuille de figuier. C'est important d'ébouillanter, parce qu'il y a quand même des oiseaux dans les arbres. On l'a enveloppé dedans. Et en fait, suivant la saison, on peut commencer sur quelque chose qui est plus herbacé, qui peut aller même jusqu'à la noix de coco, suivant l'avancement de la saison de la figue.
Il y a souvent des molécules aromatiques qui font penser à la noix de coco. Ouais. Justine, vous en pensez quoi?
Effectivement, ces notes de noix de coco, on les retrouve beaucoup en fin de bouche. Et c'est ça que je trouve fou, c'est qu'au début, on a l'acidité, mais vraiment caressante, juste bien dosée du fromage. Et après, on a toute la place à ces notes-là de feuilles de figuier. C'est vraiment très, très bon.
Beaucoup de douceur, une texture presque mousseuse, une belle acidité lactique. Et pourtant, le fromage de chèvre Pierre Coulon est assez clivant. Il ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'aiment pas le goût du fromage de chèvre.
Alors, le goût du fromage de chèvre, il vient des matières grasses spécifiques de la chèvre. Hein, les matières grasses capriques, capriliques et caproïdes qui vont présenter cet arôme vraiment qu'on appelle caprin. En fait, les matières grasses, quand elles sont pas dégradées, on ressent pas le goût. Si on boit un verre de lait de chèvre cru, on n'a pas le goût chèvre. Même là, un fromage de chèvre cru qui est frais, il n'y a pas ce goût chèvre. Mais il y a deux choses qui dégradent les matières grasses, c'est la cuisson, donc la pasteurisation, et le vieillissement. Donc c'est pour ça qu'un fromage de chèvre, plus il va vieillir, plus il va prendre de l'arôme. Et s'il est fait avec du lait pasteurisé, dès le début, on va avoir cette forte goût caprin sur les produits qui, certes, est quand même assez clivante. Hein. C'est pour ça que c'est d'ailleurs assez récent, on en est arrivé de la consommation des fromages.
Eh bien, on va en parler justement parce que la France est le pays, pourrait-on dire, du fromage de chèvre. Les Français en sont les premiers producteurs au monde, les premiers consommateurs au monde. Alors, une large partie de ces fromages de chèvre est quand même d'origine industrielle, mais notre pays, on le disait, compte quand même 16 fromages de chèvre AOP. On en fera d'ailleurs la liste, vous allez passer au tableau dans un instant pour nous les réciter. Pierre Coulon, j'espère qu'on ne va pas en oublier. Une vraie passion française, un cheptel important, un grand nombre d'éleveurs impliqués dans la filière.
Mais aujourd'hui, une légère baisse, c'est-à-dire qu'on est autour de 800 000 chèvres, ce qui nous met parmi le premier producteur mondial de fromage de chèvre, je pense, même si c'est essentiellement sur la bûche blanche, les références industrielles.
Et oui.
On va voir qu'elle a son histoire, qui n'est pas inintéressante non plus, celle-ci. Une baisse des élevages aujourd'hui, malgré tout, parce que la demande explose, mais entre la rémunération, le travail, l'augmentation du coût des céréales, le nombre d'élevages, lui, va à la baisse. Et c'est vrai qu'on a une France caprine qui a deux visages, des élevages laitiers qui fournissent l'industrie et qui peuvent avoir des pratiques plus ou moins intensives, hein, parce que l'élevage de la chèvre a aussi ses grosses zones d'ombre, et des élevages fromagers qui, eux, fabriquent du fromage à la ferme, qu'il soit ou pas en zone AOP, parce que là, je vous entendais parler des AOP. La chèvre, ce qui est génial, c'est que sur n'importe quel marché, vous avez quelqu'un qui fabrique du fromage de chèvre, qu'il soit d'appellation ou pas.
La proportion dans la fabrication totale du fromage de chèvre, la proportion du fromage industriel est absolument considérable. On peut dire que le fromage de chèvre au lait cru AOP, c'est...
Alors, fromage AOP, c'est dans les 7%. Fromage au lait cru, j'ai pas les chiffres, mais le gros de ce qui est produit en France, c'est la fameuse bûche blanche.
Bûche blanche, elle arrive quand?
Elle arrive, c'est récent. En fait, en 86, on a deux fromages qui sont créés. On a Soignon qui lance son Sainte-Maure, alors pas son Sainte-Maure de Touraine, ça c'est l'AOP. Sainte-Maure, c'est le nom du fromage. 100% chèvre, alors que jusque-là, il était dilué au lait de vache. En fait, finalement, dans les années fin des années 70, début des années 80, c'était très dur de trouver du fromage de chèvre en grande distribution. Et là, ils vont lancer ça. Et la même année, on a Tribala qui lance Petit Billy, le chèvre frais, qui lui va vraiment se développer à partir des années 90. La filière s'organise, la demande explose. Et là, on a l'interprofession qui nous crée une gastronomie de chèvre qui n'existe pas jusque-là. C'est ça qui va être drôle sur l'arrivée du fromage de chèvre
industriel. Parce que c'est vrai que le fromage de chèvre industriel, on le voit désormais dans beaucoup de préparations cuisinées. Les pizzas, par exemple. exemple.
Oui, oui, la tarte aux chèvres, la tartine grillée au four, c'est ça du coup.
Le chèvre chaud, le fameux chèvre chaud. La mythologie du chèvre chaud, ça remonte aux années 80-90,
oui,
c'est ça.
Oui, puis c'est surtout bistrot en fait, parce que dans les zones de production, les fromages de chèvre étaient mangés au couteau. Hein. La plupart du temps, dans l'histoire, les producteurs de fromages de chèvre étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, donc les mangeaient comme ça. C'est très dur, moi, quand j'ai écrit Le Bon Savoir du fromage, de trouver des recettes traditionnelles à base de fromage de chèvre. La plupart du temps, c'est un fromage qu'on consommait comme ça. On va commencer à avoir le chèvre chaud sur la cuisine bistrot à Paris, et après, bah, ça va être l'avalanche des recettes suivant toutes les tendances. Hein. Donc, le fameux chèvre betterave, ça, on nous en a mis partout. Mais c'est bon, hein, chèvre et la betterave, mais c'est vrai qu'à un moment, on nous a mis ça partout. Mais on peut croiser, je pense, aujourd'hui des pokéballs au chèvre. On le croise partout.
Absolument, et ça, c'est un peu une exception française. À quand remonte l'arrivée de la chèvre en France et les débuts de l'élevage caprin ?
Alors, la chèvre, l'élevage a 9000 ans, comme tout l'élevage, mais va démarrer dans le Moyen-Orient. Elle va ensuite se diffuser donc, sur le Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord, et elle va arriver en France. Il y a deux arrivées de la chèvre. La première avec les Phéniciens, lors de la création de Marseille, qui arrive avec les chèvres, qui nous donneront les chèvres roves, hein, parce qu'on a une dizaine de races de chèvres en France quand même aujourd'hui.
La fameuse chèvre du rove avec ses cornes en ses forme cornes, de lyre. Oui. Il paraît qu'elle s'approche vraiment de la chèvre telle qu'elle est arrivée avec les Phéniciens à Marseille.
Ouais, elle est très proche génétiquement des très vieilles races de chèvres originelles. Et après, l'autre arrivée des chèvres, c'est lors des invasions des morts qui ont été arrêtées à Poitiers. Les armées étaient suivies par des civils qui assuraient l'intendance de l'armée, dont des femmes qui étaient accompagnées de chèvres. Or, en Afrique du Nord, bien avant la France, on maîtrisait la coagulation lactique, le fait de faire cailler le lait avec des bactéries, comme on le voit sur les laits fermentés, les laits ben, les raïbes, les helben, tous ces produits qui étaient déjà largement produits et consommés. Et quand Charles Martel va repousser les armées, les civils vont être alors intégrés, on dit, intégrés au 8e siècle, je ne sais pas ce que ça voulait dire. En tout cas, les femmes vont rester avec les chèvres et l'élevage de chèvres va tranquillement commencer à se développer sur tout le centre-Val de Loire, puis la Bourgogne.
Et également dans le Poitou, hein, chabichou, toutes ces traditions laitières caprines, ça date aussi, ça remonte à cette époque-là.
Ça remonte à cette époque-là, et ce qu'il montre très bien, c'est qu'on a une chèvre qui est moins en danger aujourd'hui, mais qui a failli disparaître, qui est la chèvre poitevine, et qui est l'exemple parfait du métissage des petites chèvres qu'on va croiser au Maroc, touillées avec les races espagnoles, jusqu'à l'arrêt dans le Poitou, et ce qui nous donne la chèvre poitevine dans le Poitou.
L'élevage de chèvres va s'intensifier après la Seconde Guerre mondiale, lors de ce qu'on appelle la Révolution verte. Hein. On met des gros guillemets.
Effectivement, la chèvre ne va pas échapper à l'industrialisation. Alors, ça va dépendre des régions. Parce que dans les régions traditionnelles d'élevage de chèvres, comme dans le centre-Val de Loire, qui sont plutôt mauvais élèves sur le bien-être animal, n'ayons pas peur de le dire.
On va en parler.
Les chèvres, on va voir les élevages augmenter, on va voir la mécanisation se mettre en place et les animaux être enfermés à l'intérieur. Mais ce qui est drôle, c'est que dans les années 70, on a toute la génération des hippies qui se barrent des villes, et s'il y a un truc qui est facile et qui est attachant à élever, c'est une chèvre, et ça se trouvait sur les marchés. Et donc on va avoir des appellations un peu plus libertaires créées par des gens qui vont se lancer dans l'élevage de chèvres, parce que faire du fromage de chèvre, il faut être rigoureux, mais c'est pas difficile, c'est plutôt facile, et qui vont nous créer des appellations qui, elles, sentent plus ces années 70.
Avec mais c'est vrai que quand on pense fromage de chèvre, on pense beaucoup effectivement à ces reconversions des années 70, des gens aux cheveux longs qui plantent des haies et qui élèvent des chèvres pour fabriquer des fromages fermiers,
effectivement,
de façon assez naturelle, qu'on retrouve dans les marchés du sud de la France, par exemple, ou dans les Cévennes. Ou...
Bah alors après, il y a des appellations qui étaient très hippies, hein, je pense au Pélardon, même au Bannon. Quand on a vu la génération, moi, quand j'ai commencé mes études en chèvre il y a une vingtaine d'années, c'était la génération qui était en fin de carrière, et très clairement c'était des gens qui étaient arrivés en quittant la ville. Mais c'est pas le cas partout, c'est une filière qui est très très vaste, le monde de la chèvre.
Vous évoquez le Bannon, c'est ce petit fromage de chèvre des Alpes de Haute-Provence emmailloté dans une feuille de
châtaignier.
C'est ça.
Ouais,
c'était un petit paquet cadeau en fait.
La pochette surprise.
Ah, j'adore.
Voilà, alors on essaie de choisir la version fermière, la version industrielle étant un peu mal positionnée en termes de propriétaire, dirons-nous.
J'ai appris quelque chose en lisant vos notes de préparation, cher Pierre. Pourquoi trouve-t-on souvent, ça va intéresser Justine, des chèvres près des vignes ?
Alors ça, c'est très fréquent. Hein. D'ailleurs, on a...
Notamment, c'est le cas du Val-de-Loire.
Oui, bah, le Valençais, typiquement, c'est le nom d'un fromage et c'est le nom d'un vin. Mais on aura le Mâconnais, le fromage de chèvre Mâconnais à côté de Mâcon, Sainte-Maure de Touraine, on n'est pas loin de Chinon. C'est juste que les chèvres étaient souvent utilisées alors, pour valoriser les zones qui n'étaient pas bien exposées, les zones incultes. Parce que comme la chèvre arrive à manger en hauteur, elle mangeait les broussailles. Et surtout, quand on avait les attaques de phylloxéra, donc cette maladie qui nous pliait les vignes, on pouvait rapidement développer l'élevage de chèvres parce qu'une chèvre, au bout d'un an, tendance à refait de chèvre. Donc c'est beaucoup plus facile à multiplier que les vaches.
Ça permet de compenser.
Ouais. Alors ça n'a jamais été pour entretenir les vignes, les chèvres ayant un sens de la destruction très 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 prononcé.
Je pense qu'elles auraient fait
mal au monde du vin à l'époque. Mais c'était plus ces histoires de valoriser d'autres zones.
On les parquait entre guillemets effectivement dans des parcelles assez peu exploitables et les chèvres sont des animaux plutôt conciliants.
Oui,
en termes de nourriture.
Et très très agile, en conditions naturelles, pour arriver à les récupérer n'importe quoi à manger. Hein. Donc c'est un animal qui est magique pour ce caractère-là.
On évoquait, Pierre Coulon, le Val de Loire. Eh bien, on va y rester avec un exemple très intéressant, la fameuse bûche cendrée traversée d'une paille de seigle. Vous me voyez venir ?
Sainte-Maure-de-Touraine.
Absolument, le Sainte-Maure-de-Touraine qui porte le nom d'une commune du sud du département de l'Indre-et-Loire. Eh bien, figurez-vous que je suis allé il y a quelques jours rendre visite à Marion et Léon Roche. Ils ont repris il y a 3 ans la ferme de la Caillonnière, une exploitation bio. On est à Polnay, très exactement, dans l'Indre, au cœur du parc de la Brenne, un pays que l'on surnomme le pays des mille étangs. Et dans cette ferme, vous allez voir, hein, Pierre, et vous nous en direz un mot après, les chèvres sortent le plus souvent possible au grand air. Il y a marqué chèvrerie ?
Oui. On a régulièrement de la visite, donc c'est toujours plaisir d'avoir les panneaux indicateurs, même s'il y a peu de doutes quand on arrive. On va dehors les filles ? Alors aujourd'hui on a 77 chèvres productrices, on a 4 mâles pour la reproduction et 23 chevrettes et petits boucs pour le renouvellement de notre troupeau.
Quelle race ?
Alors on est principalement en race alpine, on a quelques individus Couclère du Berry ou typé Couclère du Berry, mais c'est principalement sur de l'alpine. On a la chance d'avoir 4 hectares de pâture pas très loin du bâtiment, ce qui nous permet de les sortir une bonne partie de l'année dès qu'il fait beau.
Elles viennent nous voir, elles sont curieuses.
Oui, c'est des animaux, on passe beaucoup de temps avec, c'est des animaux très malins et c'est toujours agréable de rentrer dans le bâtiment et d'être accueilli comme ça. Elles vont toutes rappliquer, prêtes à sortir.
Et vous fermez la marche, Léo ?
Pour être sûr que les dernières suivent.
Donc Marion devant et vous derrière.
C'est ça. Alors on a des chèvres cornues qui profitent du coup de ratiboisser les branches au passage.
Vous arrivez à les reconnaître, chacune d'entre elles, dans le troupeau ?
Oui, en fait, on a des colorées, on a certaines qui ont des taches sur le front, d'autres non. La forme et taille des cornes jouent aussi. Et puis, faisant la traite 2 fois par jour, je reconnais certaines chèvres à la mamelle.
Alors là, on rentre dans une parcelle.
Donc on a, comme je le disais, à peu près 4 hectares de pâturage. On a découpé ça entre 30 et 40 paddocks, qui permet d'assurer une rotation sur le temps que passent les chèvres chaque jour sur chaque paddock.
Donc c'est du pâturage tournant ?
Tout à fait. Et on les met dans un nouveau aujourd'hui.
Et là, en l'occurrence, il y a quoi comme plante à leur disposition ?
Alors, l'objectif de ressemer, c'est d'apporter surtout de la légumineuse, qui est plus riche en protéines, et du coup, pour la production laitière, c'est plus intéressant. On est plutôt sur de la graminée ces derniers temps, du dactyle, fétuque, fléole, pas mal de choses diversifiées. Et sur les légumineuses, on privilégie beaucoup la luzerne, qui est une plante très intéressante pour les chèvres. Mais on diversifie aussi par du trèfle violet, du trèfle blanc, trèfle incarnat, etc.
Celle-ci, on l'appelle la vache parce qu'elle est un peu tachetée. Et elle, c'est une petite mamie, donc elle a un petit peu mal aux pattes. Et souvent, elle décide d'elle-même de rester dans le bâtiment.
D'accord.
Mais aujourd'hui, elle s'est dit non, je veux passer à la radio, donc j'y vais. Quand elles sont dehors, elles retrouvent leur comportement de chevreau. On les voit faire des cabrioles. C'est pas une légende hein, que les chèvres font des cabrioles, ça se voit bien.
Ça fait partie des moments qui nous satisfont le plus. Ouais,
c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on fait ce métier. Enfin, les voir dehors et les voir comme ça, c'est extra. Alors c'est sûr, ça demande du travail et puis c'est aussi plus risqué parce qu'on a forcément les parasites qui sont là. Mais c'est tellement, pour elle, c'est tellement enrichissant et pour nous aussi qu'on ne reviendrait pas en arrière là-dessus.
Bon, elles sont bien sages au pâturage, on va les laisser manger tranquillement et puis retourner vers la maison.
C'est vous qui avez planté des haies tout autour ?
Ce sont nos cédants qui ont planté des haies et on a l'objectif d'en replanter aussi.
Parce que bon, déjà, ça apporte énormément pour les chèvres, pour l'ombre. Peut-être que nous, on n'en profitera pas, mais nos successeurs, eux, en profiteront. Et puis surtout, ça ramène de la biodiversité au sein de la ferme. Et ça, c'est très important pour nous. On est en bio, c'est pas uniquement la production qu'on veut bio, c'est raisonner toute la ferme, tout le système pour privilégier la nature, respecter l'environnement et replanter des haies, on fait partie. Et ce que je vous propose, c'est d'aller en fromagerie et de voir toutes les étapes de fabrication d'un fromage.
On va retrouver dans un instant Marion Roche qui fabrique le Sainte-Maure de Touraine dans de très belles conditions, il faut bien le dire, hein. Exploitation fermière, biologique, et dans le Val-de-Loire, ça ne se passe pas toujours comme à la ferme de la Caillonnière, c'est le moins que l'on puisse dire quand même, Pierre Coulon, il y a même pour le Sainte-Maure de Touraine et les autres AOP du Val-de-Loire, parfois un côté un peu intensif.
Alors, c'est là le mot surtout qu'il faut retenir, c'est pâturage. C'est vrai qu'il y a des régions, on les traverse et on voit pas de chèvres. C'est d'ailleurs très rare de voir des chèvres quand on se balade, parce que dans les années 70, on s'est rendu compte qu'elles étaient plus efficaces à l'intérieur. En plus, la chèvre a un côté totalement irrationnel à l'extérieur. Elle adore s'échapper, elle adore aller bouffer. C'est toujours plus
elle fait des cabrioles,
de
comme le disait Marion.
Exactement. Donc il y a le côté un peu de les parquer et aussi l'excuse du parasitisme, parce que c'est vrai que les chèvres peuvent y être sensibles. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'éleveurs qui font choix du pâturage ou de la garde, donc de garder leurs chèvres, les AOP du Centre Val-de-Loire, donc que ce soit le Sainte-Maure de Touraine, le Pouligny-Saint-Pierre, le Selles-sur-Cher, le Chavignol, et il m'en manque une...
Le Valençay. Vous les avez tous
exactement, à une près, sont des appellations qui autorisent la claustration. Alors, on est sur des fromages qui sont au lait cru, il n'y a pas d'AOP foncièrement à 100% nul, je pourrais dire. Si, peut-être une, mais bon. Effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de pâturage fait qu'on est sur des élevages où les animaux restent à l'intérieur. On n'a pas de notion de mal-être animal quand on se balade dans les élevages de chèvres, parce que comme elles sont joyeuses, on se dit, oh oui, ça va, et on croit les conneries des éleveurs qui nous disent c'est pour les protéger des parasites et tout. Mais je vous encourage un jour à aller vous balader avec un troupeau de chèvres en plein air pour comprendre que sa place, c'est vraiment d'être à l'extérieur et de profiter de cette nature. Et qu'est-ce à le faire? Mais par contre, c'est compliqué, ça demande du temps, comme font ce que font ces jeunes, quoi.
Bah, il faut les sortir, il faut les accompagner, il faut jouer le rôle de berger, en quelque sorte.
Ou en tout cas, bien les parquer. Moi, quand j'avais les chèvres, elles se barraient tout le temps. On était connus dans le quartier pour avoir notre troupeau qui régulièrement allait manger chez les voisins.
Hein. Et là, vous avez vu, ils ont mis en place justement pour lutter contre les parasites un pâturage tournant.
Oui, avec c'est une bonne solution. Aujourd'hui, on sait gérer le parasitisme en élevage caprin, en pâturage. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein.
Un petit mot, Pierre Coulon, sur une question qu'ignorent totalement ou très souvent nos auditeurs et nos auditrices. C'est la question de la saison. À la ferme de la Caillonnière, on ne produit pas du fromage toute l'année, car notre couple, Léo et Marion, ont décidé de respecter le cycle biologique des chèvres qui ne sont pas en phase de lactation toute l'année, en fait. Expliquez-nous.
Non, en fait, les chèvres sont saisonnées, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles à la lumière du jour et donc elles vont déclencher des chaleurs à la fin de l'été, au début de l'automne. La gestation est de 5 mois. Or, à la fin de la gestation, tous les animaux laitiers, on est obligé d'arrêter de les traire parce que c'est un moment où les mères mobilisent toutes leurs réserves pour leurs petits.
Donc il y a un temps de pause, y compris pause, pour la transformation du lait de chèvre en fromage.
Pas de lait, pas de fromage. Et puis en plus, la chèvre n'est pas régulière sur ses productions laitières. Elle va faire beaucoup de lait en début de lactation. En fin de lactation, une bonne chèvre fait quand même beaucoup moins de lait. Donc c'est assez compliqué à gérer pour les éleveurs. Aujourd'hui, il y a des moyens d'intervenir sur cette lactation parce qu'il y a une forte demande de chèvre en hiver. Donc on a d'un côté les consommatrices et les consommateurs qui n'ont toujours pas compris pour les tomates. Donc de là, alors en parler pour les fromages, moi je trouve que c'est un entre-soi de dingue de parler de saison des fromages parce que la demande la plus forte et la plus forte période de consommation des fromages de chèvre, c'est décembre. Donc un moment où il n'y a pas de lait.
Parce qu'elle est faite.
Parce qu'elle est faite. Ouais. Et parce qu'on mange beaucoup plus de fromage en hiver. Et par contre, les moments où on a beaucoup de lait, comme en ce moment, bah, les gens vont lever un peu le pied sur les matières animales. Et bon. Du coup, ce qui est gênant là-dedans, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas comment on fait pour désaisonner. Il y a 3 méthodes pour avoir du lait en hiver.
C'est pas glamour, glamour.
Alors, la première, il y en a une qui est pas glamour, c'est l'utilisation des hormones. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment choquant aujourd'hui. Alors,
on injecte des hormones.
On les injecte pas. C'est sous la forme d'éponges qui sont mis dans le vagin des chèvres. Après, il y a 2 injections sur le côté qui permettent de déclencher un oestrus à heure H. Alors, ces hormones, le gouvernement français ne les trouve pas dans le lait pendant le traitement. Elles sont interdites dans plusieurs pays. Puis, il y a un moment, moi, en tant que consommateur, j'entends les pratiques agricoles, j'entends les difficultés du monde agricole, mais j'ai pas envie d'être confronté à ça, et ni en tant que professionnel. Le problème, c'est qu'il y a des méthodes qui sont clean. Par exemple, la lumière. Aujourd'hui, on peut faire décaler le cycle de production des chèvres avec la lumière, parce que faire du lait en hiver, ça reste un choix d'éleveur. Moi, j'ai des potes ultra militants qui veulent être uniquement en saison, sur de l'herbe et tout ça, et c'est leur leitmotiv et c'est ce qui les fait tourner. Et par contre, moi, je sais, quand j'ai eu mes chèvres et qu'on a commencé à avoir des salariés, bah, certes, le premier hiver de pause, c'était bien, mais d'un autre côté, on avait zéro thune. Et après, quand
parce que vous ne produisiez pas de fromage, donc il y a aussi une question de trésorerie auquel sont confrontés certains éleveurs, il faut les comprendre.
Et aussi de marché. Moi, j'avais pas de marché spécialement local quand j'étais chevrier, j'étais beaucoup sur Rungis. Rungis faut fournir à l'année parce que les clients veulent du fromage de chèvre au fait, les crémiers veulent du fromage de chèvre au fait, les grossistes en veulent. Donc la lumière, c'est pas si choquant. C'est quelque chose qui est très utilisé en élevage. Bah, par exemple, sans lumière, on n'aurait pas d'eau de poule en hiver non plus.
Bien sûr.
Et l'autre technique, c'est la lactation longue. On garde les chèvres en lait parce qu'elles ont cette capacité. Moi, c'est ce que fait mon éleveuse en agriculture biologie, de continuer à faire du lait si on ne les remet pas en reproduction. Le truc aujourd'hui, c'est que il y a que le label bio qui sécurise sur l'utilisation des hormones et l'AOP Brousse-Durov. Et après, on ne sait pas. Et je tiens à le dire parce qu'en ce moment, l'agriculture louable est quand même pas mal malmenée, et notamment l'agriculture biologique ces derniers temps. Et en fait, c'est quand même des sacrées barrières, indépendamment du prix, indépendamment du pouvoir d'achat et de tout ça. C'est quand même une manière aujourd'hui de produire qui nous éloigne de ce que l'agriculture sait faire de pire.
Donc, les cahiers des charges d'appellation d'origine protégée ne sont parfois pas des garanties suffisantes pour le bien-être animal et le bien-être des chèvres en particulier dans le sujet qui nous intéresse.
Ils sont inégaux, ce qui demande aux gens aujourd'hui d'aller sur le terrain pour voir effectivement la manière dont travaillent les éleveurs et les éleveuses.
Et je précise qu'il y a des crêperies oula, je vais me réveiller je reviens. Il y a des crèmeries, excusez-moi, qui ont fait le choix par rapport à la saison, c'est-à-dire qui ne vendent pas de fromage de chèvre hors période.
Ouais, la fromagerie Goncourt à Paris. Et puis après, chez Virginie aussi, moi j'aime bien sa démarche. Elle a été visiter tous ses élevages, elle a dégagé tous les gens qui utilisaient des hormones.
De Paris.
Voilà.
Et chez vous aussi?
Bah, chez moi, nous, on est en bio, donc effectivement, là, c'est les yeux fermés sur
la laiterie de Paris. Je vous propose, Pierre Coulon, de retourner, et Justine, à la ferme de la Cagnonnière à Polnay, dans le Berry. J'accompagne Marion Roche dans son atelier pour transformer quotidiennement le lait de chèvre en Sainte-Maure de Touraine, dans son atelier grand comme un mouchoir de poche.
On est devant la fromagerie ?
C'est ça, on est devant mon bureau de tous les jours, donc je vous invite à me suivre. On arrive dans la partie magasin. Alors, je vais vous proposer les bottes et tablier. Et on est parti. Voilà, le labo de transformation, donc il fait à peu près 20-25 mètres carrés, où on transforme la totalité de notre lait, donc entre 40 et 45 000 litres de lait à l'année. On a sur la table du fond les valençais qui ont été moulés ce matin. Sur la table de droite, les fromages qui ont été salés ce matin. Et dans les étagères, les fromages qui sont en phase de dégouttage, de ressuyage, où ils perdent encore de l'eau avant d'aller à la cave. Donc là, on a la salle de caillage. Donc c'est une pièce un peu plus chaude, où il fait entre 20 et 22 degrés, où quand le lait arrive après la traite, il est mélangé avec des ferments, il va maturer avec les ferments pendant plusieurs heures, et ensuite on va amener la présure qui va générer la coagulation du lait. Et donc au bout de 24 heures, on va pouvoir mouler ce lait, donc il est devenu un cahier lactique. Alors, sur mon cahier de fromagerie, qui est là, je note tout. Donc ça, c'est le lait de vendredi soir, je fais mon petit calcul de rendement. Donc, en ce moment, il me faut à peu près 2,1-2,2 litres de lait pour faire un Sainte-Maure de Touraine. Donc là, on va mouler 38 bûches. Donc là, j'enlève la partie lactosérum. Donc le lactosérum, c'est le liquide qui vient se former au-dessus du cahier pendant toute la phase de caillage.
Le petit lait.
Le petit lait, exactement. Et là, vous voyez, on voit dedans comme des petits morceaux là, c'est ce qu'on appelle le géotrichome. Le géotrichome, c'est la bonne moisissure qui va venir derrière former la croûte de nos fromages. Alors là, je suis en train de mouler les Sainte-Maure de Touraine. L'objectif, c'est d'essayer de casser le moins possible le cahier pour que ça ne devienne pas de la soupe. Et c'est de garnir mes moules de façon assez homogène pour avoir derrière des fromages qui soient à peu près de la même taille. Puisqu'en Sainte-Maure de Touraine, on a un objectif de poids à 10 jours d'affinage de 250 grammes. Donc là, vous voyez, je l'ai rempli et derrière, ça va s'égoutter assez rapidement au début et de plus en plus lentement au fur et à mesure du moulage
Ce sont des moules tronconiques, ce qu'on appelle, puisque la base est plus étroite que le haut, et en plastique, donc alimentaire. Et là, on a un support multimoule, qu'on appelle un répartisseur, qui va nous permettre de mettre une plus grande quantité de cahiers à la fois.
Ça y est, les moules sont remplis.
Voilà, c'est ça. Donc là, on entame la phase d'égouttage. Donc ceux qu'on a moulés là ce matin, ils vont être démoulés dans 48 heures. Et au moment du démoulage, il y a plusieurs phases. Il y a donc déjà l'insertion de la paille, puisqu'en Saintement de Touraine, les fromages sont garnis d'une paille qui est gravée au nom du producteur fermier. Surtout pour maintenir le fromage quand on va le sortir du moule, puisque c'est un fromage qui est assez lourd. Et donc pour éviter qu'il se casse, la paille en fait lui sert de squelette. Donc au moment du démoulage, on a cette paille et on a aussi le salage et le cendrage, puisque les Saintement de Touraine ont cette robe un peu bleutée, donc une cendre végétale, qu'on va venir mélanger à notre sel et adapter en fonction de la couleur qu'on souhaite pour notre fromage. En s'affinant, ça va vraiment devenir un gris bleuté avec cette croûte bien spécifique, le géotrichum, qui va venir faire des petits vermicules sur le fromage.
Production terminée.
Voilà, donc là la matinée est terminée, on a fini de mouler les fromages. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on se déguste un Saintement de Touraine, non ?
Avec plaisir, au moins un morceau.
Celui-ci, il a 11 jours tout pile, donc il est pile poil Saintement de Touraine aujourd'hui. Et donc cette paille, idéalement, quand on déguste le fromage, c'est bien de la retirer avant pour pouvoir couper plus facilement notre fromage derrière. Plus le fromage va être affiné, plus il va être dur et plus la paille sera difficile à retirer. Au niveau de la coupe, ce qu'on recherche, ça va être une pâte assez fine, sans trous, sans fissures, qui soit assez brillante. On recherche cette croûte bien vermiculée du fromage, bien bleutée, qui donne derrière un petit goût un peu fruité. Plus on se rapproche de la croûte, et plus les arômes vont être importants. On ne va pas avoir une fixation du carotène de la même façon que dans le lait de vache. Donc c'est pour ça qu'on a un lait qui est toujours très très blanc, même si les chèvres vont aller au pâturage. Donc on a toujours une chair du fromage, une pâte qui va être très blanche ivoire, comme ça. Donc bien onctueux. Une pâte vraiment fine, fraîche. Et une croûte qui amène un petit peu de texture, mais qui n'est pas amère. Il faut faire souvent attention au niveau de l'amertume, la croûte. Là, on a un fromage qui a été bien séché. Donc la croûte n'est pas humide.
Beaucoup de douceur, une certaine acidité lactique.
On pourrait presque encore le considérer comme frais. Pourtant, il a 11 jours d'affinage. C'est un fromage qu'on peut déguster frais comme très affiné, fondu sur des tartines, ça va très bien. Enfin, c'est un fromage qui se marie avec plein de choses, avec des noix, en salade. Et nous, comme on a des chèvres en plus qui sortent au pâturage, donc nos fromages de début de saison vont être très différents de ceux qu'on trouve l'été. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous l'avez sous vos micros, chers amis, le Saintement de Touraine de Marion et Léon Roche de la ferme de la Caillonnière. Sachant que il y a un seul endroit dans la capitale pour le trouver, c'est Terroir d'Avenir à Paris. Merci à Thomas Darcos d'être allé nous le chercher. Sinon, c'est une consommation exclusivement locale. Alors, en vente directe à la ferme, donc à Paulnay, dans l'Indre, mais également sur les marchés locaux, Mézières en Brenne et Argenton sur Creuse, et puis chez plein de restaurateurs du coin. Vous en pensez quoi, Justine Knapp, de ce Saintement ?
Je trouve que presque on a envie de le manger sans pain, tant l'équilibre il est parfait entre cette douceur, ce caractère. Et j'aime aussi que le cœur soit dense.
Oui.
Et on prend plaisir à le faire fondre contre le palais, ça prend du temps, c'est délicieux.
Vraiment. C'est vraiment, ouais. Vous en pensez quoi, Pierre? Ouais, c'est la première fois que vous le goûtez?
Ah oui, c'est très bien réalisé, hein. On est hyper bien au niveau des acidités, on a un beau goût chèvre, on a ce crémeux sous croûte qui est très bon. Le sel très dosé.
Ouais, parfait le sel.
Ouais.
Pierre Coulomb, et alors on enlève la paille ou pas?
Alors là je joue avec la paille. La paille c'est effectivement le squelette du fromage, elle le dit, mais en début d'affinage, ce qui permet de le manipuler. À ce stade-là, techniquement on n'a plus besoin, puis c'est pas dingue au niveau du goût, hein. C'est une paille de seigle. Alors on peut reconnaître à la OP Sainte-Maur que c'est fabriqué dans un ESAT, hein, et que au moins dessus va nous donner le nom de la OP, le nom du producteur, donc une certaine traçabilité.
C'est la carte d'identité du fromage.
Et puis c'est rigolo. Moi je l'enlève assez rapidement, je vous avoue, quand je mange, parce que je trouve que c'est un peu plus galère à couper. Alors là je faisais en faisant le tour du fromage pour vous faire les tranches, mais elle n'a pas un intérêt gustatif, clairement.
Pierre Coulon, parfois chez vous, le Saintement de Touraine peut finir à la casserole, puisque vous m'avez confié un truc que vous adorez, attention, un saucisson brioché,
ouais.
Où vous remplacez le saucisson.
Oui.
Par un Sainte-Maure, par une bûche entière.
Par une grande bûche, ouais. Dans ma pâte, je rajoute une pointe de miel, parce que le chèvre aime le sucre, et puis j'aime bien le miel. Et je fais un saucisson.
Et attendez, vous aimez bien le miel et vous en produisez en Normandie en
ouais,
plus.
Ouais, mais ça c'est,
vous m'avez rapporté,
c'est entre nous.
Vous m'avez rapporté un pot là. Un pot mille fleurs, miel de printemps.
Ouais, d'abeille noire de Normandie.
Donc vous faites votre propre pâte à brioche et ouais, vous emmaillotez en quelque sorte.
Le reblochon, pas du tout. Le Sainte-Maure de Touraine.
On
enlève
la paille là cette fois-ci.
Et j'enlève la paille, ouais, clairement, à la dégustation. Ça fait vraiment une super entrée.
Dans un instant, une autre super recette signée Pierre Coulon. Attention, si je vous dis fouet, il y a des auditeurs et des auditrices qui vont se sentir concernés. C'est une affaire de fromage et de pain. On va se régaler. On va poursuivre notre tour de France des fromages de chèvre. On répond aussi aux questions de nos auditeurs avec Justine Knapp. Laquelle, Justine, va nous faire découvrir un vin blanc très fromage de chèvre compatible. Something stopped me dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Yes, le retour de Pulp avec leur nouveau titre Spike Island.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Les fromages de chèvre au menu de notre émission dominicale avec notre expert qui vient régulièrement nous rendre visite pour nous parler fromage et produits laitiers. C'est évidemment Pierre Coulon, fondateur de la Laiterie de Paris dans le 18e arrondissement, qui nous a apporté de superbes recettes et qui va répondre à quelques questions d'auditeurs et d'auditrices, cher Pierre. C'est Justine qui s'en occupe.
Oui, peut-être une question de Laurent. Il est bénévole dans une ONG et au Tchad. Il se demande s'il peut mettre en place une petite fromagerie, notamment pour les conditions par rapport aux conditions de température, voilà, entre 20 et 45 degrés.
Alors, le fromage, ça se fait partout, 20-45 degrés. Le fromage faut du froid. Donc, on peut mettre en place une fromagerie avec, effectivement, des ambiances un peu tempérées ou partir sur des laits fermentés. Mais aujourd'hui, il faut forcément un cycle de refroidissement dans les produits laitiers.
Et les chèvres, est-ce qu'elles peuvent pâtir de cette...
Il faut trouver des races locales qui sont adaptées à ça. Après, leur production laitière sont souvent assez limitées.
Et oui, plus il y a de chaleur, moins il y a de lactation.
Les chèvres font de lait, ouais.
Et puis ensuite, on a Denis qui nous dit que son 4 heures de l'enfance en Touraine, c'était une tranche de bon pain, dessus une couche de rillettes et encore au-dessus une petite couche de fromage blanc frais de chèvre non salé, que c'est merveilleux.
Ça fait envie.
Là, ça me fait penser à la suite en tout cas, les rillettes et le fromage de chèvre et la Touraine.
Oui. Transition vers une recette, mais vous avez peut-être une autre question, Justine.
Une autre question, peut-être par rapport aux recettes, quel fromage AOP peut se prêter à la cuisson?
Ah oui, et notamment le fameux chèvre chaud, on en a parlé tout à l'heure.
Ouais, tout dépend en fait combien on est. Ça peut être des rocamadours si on est tout seul, on en prend deux. Ça peut être un chabichou si on est à deux. Moi, je fais pas souvent des fromages de chèvre cendrés parce qu'à la fonte, c'est un peu moins beau, mais c'est peut-être une petite fixette que j'ai qui a pas grand intérêt. Faut choisir des fromages qui ont deux semaines et qui vont, c'est pas une fonte filante, hein, mais qui vont avoir de la tenue. Ils s'y prêtent tous en fait.
On évoquait donc cette spécialité à base de pain et de fromage, un pain typique de la région de Saumur.
Avec des petites fouées, ouais.
Fouées, alors F-O-U et E.
Et E, oui. C'est une spécialité de petits pains farcis soit au fromage de chèvre frais, à la ciboulette, comme celle que j'ai mis là, ou aux rillettes. Donc c'est ça qui m'a fait rire. Moi, j'ai fait mon apprentissage près de Saumur quand je me suis lancé dans les chèvres, et on avait plein de restaurants qui nous achetaient du chèvre pour faire des fouets. Il y a des restaurants à fouets, figurez-vous.
Magnifique. Alors comment on s'y prend ?
Alors c'est une pâte à pain, simplement une pâte levée, là la recette on l'a mise sur le site, dans laquelle on va mettre donc du fromage de chèvre avec de la ciboulette. Le secret c'est la cuisson, il faut être très chaud, 250 degrés, 10 minutes pour qu'elle gonfle.
Voilà,
et donc voilà, c'est vraiment le truc le plus simple. Si on ne veut pas faire sa pâte à pain, on en prend à son boulanger. Hein.
Magnifique. Mmh. On emmaillote comme ça un fromage de chèvre, on peut le condimenter avec des herbes fraîches, parfois quelques épices, on fait un peu ce qu'on veut en fait.
Ouais, un genre d'empanadas de Saumur, au chèvre.
Et vous avez réussi à nous les servir chauds. Alors, on va pas donner la technique, hein. On est quand même équipé de manière un peu basique ici, mais c'est délicieux, Justine.
Oui, c'est en fait le fait que ce soit chaud, moelleux, ça fait un peu l'effet d'exhausteur de goût pour le fromage de chèvre.
Et je vous ai glissé également sur le site internet dont on va déguster une petite recette qui me fait un peu penser à ça. Alors là, on est plutôt du côté des Charentes, c'est le préfou.
Eh oui, en Vendée.
Ouais, ouais. Pour ressusciter une vieille baguette de la veille, on la coupe en deux. On y place des rondelles d'un fromage de chèvre, on peut y ajouter même un peu d'ail, un peu de persil, faire une espèce de persillade. On passe ça au four et on tranche, voilà, pour l'apéro.
Trop bien, ça et change
plutôt,
de la version
c'est plutôt vendé d'ailleurs.
Léger.
Oui, ouais. Et ben ouais, c'est, ça peut être tout à fait intéressant. On a d'autres questions qu'on va vous poser dans un instant, cher Pierre. Il y a aussi une recette que vous allez nous faire tout à fait étonnante, mais c'est l'heure, évidemment, d'avoir, c'est l'heure de notre rendez-vous dans nos verres.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, dans la famille du chèvre, vous avez choisi un fromage spécifique pour votre accord.
Comme on grignote le quignon de pain, je fais souvent la même chose à la cuillère avec le chèvre frais. Extra frais, tout juste sorti du moule et qui en porte encore les trous comme la marque d'oreiller. C'est un fromage que j'aime pour sa subtilité, parce qu'il demande de tendre l'oreille.
Mmh.
Et même propriété pour le vin dans vos verres, il avance en apesanteur, il se dépose à peine, mais ne se défile pas. Tissu fin, vêtements bien coupés, et mine de rien...
C'est bien dit.
Mine de rien, il a de la présence sans l'imposer. C'est un accord pour celles et ceux qui aiment l'acidité douce et les choses légères, qu'on peut considérer sérieusement. C'est un accord classique dans l'idée, ou presque.
Je peux même vous dire que moi, il y a un parfum floral au nez qui m'envahit, presque le parfum du sureau.
Oui, exactement.
Quelque chose de fleur blanche.
Ouais.
Quelque chose un peu mielé, c'est étonnant. Alors moi, je ne l'ai pas, hein. J'ai pas un palais de vin, j'ai un palais de fromage.
Voilà.
Et donc, un accord classique, est-ce que ça vous avez une piste ?
Une belle acidité, cépage blanc, on n'est pas dans le Val-de-Loire quand même.
Moi, je trouve qu'il y a quand même un tout petit côté, un poil litchi, je sais pas, que je ressens, qui fait un peu tirer vers l'est.
En fait, si on regarde la bouteille, cette longue bouteille étirée, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'on est un peu plus loin que la Loire, de l'eau quand même, une rivière, la Moselle. Mais côté allemand, à une centaine de kilomètres de la frontière... On est à Trabentrarbach. La Moselle, elle serpente dans des virages très serrés en lacets. Des pentes démentielles de schiste tombent dans l'eau. Un dicton local dit que là où une charrue peut aller, aucune vigne ne doit se tenir debout. Les vignes, elles sont accrochées à ces coteaux. Tout en haut, celle de Jan-Philippe Blake, installée en 2019. Du Sauvignon, qui compose cette cuvée
Sauvignon
qu'on est en train de boire, cuvée Vénus, mais aussi et surtout du Riesling, qui est ici chez lui. On peut le goûter dans la délicate cuvée Space Dream ou dans la cuvée Icarus, plus charnue, très harmonieuse. Pas plus de 11 degrés d'alcool, hein, vu la situation géographique.
C'est digeste et léger.
On est haut sur la carte, on est haut dans les parcelles. Toujours un fruité net, ni caricatural, ni envahissant. Des vins cristallins, franchement savoureux.
Et salivants. Hein.
Ouais.
Exactement. La cuvée, donc cette cuvée Vénus, on la trouve à 19 euros en ligne. Le vigneron n'a pas encore ses entrées en France. Avis aux importateurs. Et puis, il y a des vins spéciaux, des vins eux aussi issus de ces pentes coûteuses, mais proposés un peu moins cher. Des vins qu'on ne pourra pas trouver en ligne ou chez un caviste. Sur les 3 petits hectares de son domaine, le vigneron teste sur 1 hectare un autre modèle qui parlera au maraîchage et à l'élevage, une communauté solidaire agricole qu'il a baptisée Sola Vino. En fait, c'est le principe de la MAP.
Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, Justine.
Système très rare dans le milieu viticole. C'est le premier de ce type en Allemagne. Donc, c'est l'idée du paysan de famille. On achète à l'avance toute la production d'une ferme pour de la qualité bio sans intrants. Chez Yann-Philippe Blake, 80 membres sont engagés. Une fois par an, tous se réunissent pour connaître les prévisions des coûts de l'année à venir, salaire du vigneron compris. Tour de table, chacun écrit anonymement le prix qu'il souhaite mettre chaque mois. Donc ça peut être 10 euros pour un étudiant ou 150 euros si on a beaucoup de moyens. L'idée, c'est d'atteindre ensemble la somme définie, si besoin avec plusieurs tours. Et en échange, on reçoit des bouteilles, un certain nombre par an, qui varie selon les millésimes, selon les aléas climatiques. Les responsabilités sont partagées, les risques aussi. Le vertige d'une seule récolte de fruits bio par an tient dans cet écart. Une belle année, chacun avait reçu 80 bouteilles, la pire, 6 bouteilles. Dans le projet, il y a aussi une dimension sociale et hédoniste. Ça, c'est Anaïs Wagner, la seule Française du groupe, qui me l'expliquait. Sur une application partagée, elle peut consulter les dernières nouvelles du domaine et les dates des week-ends que le vigneron organise 2 fois par mois pour participer aux travaux de la vigne, si on le souhaite. En général, une quinzaine de personnes viennent. Le soir, tout le monde cuisine et dresse la table ensemble. Ça fait partie du budget de l'année.
Et on ouvre quelques bouteilles, j'imagine.
Oh, je n'en doute pas. Des personnes de 20 à 60 ans, aux métiers divers, qui travaillent aussi bien dans l'automobile que dans la restauration et qui ont envie de se sentir utile de s'impliquer dans le vin qu'elle débouche et qui particulièrement aime boire et manger. Et pour le vigneron, c'est beaucoup d'épaules pour faire du vin 100% raisin.
Belle initiative, et c'est assez inédit en fait.
Oui, c'est assez rare. Ouais.
Dans le milieu du vin. Vous nous rappelez les références de votre très jolie cuvée.
Cuvée Vénus, vigneron Yann-Philippe Blake.
Merci beaucoup Justine Knapp. Nous avons 2 minutes. 1 minute pour une recette, mais avant 1 minute pour une question importante. On a beaucoup d'auditeurs qui réagissent sur les supposés bienfaits du fromage de chèvre. Longtemps il a été dit, et c'est un discours qui a notamment été véhiculé par les naturopathes, sur le fait que c'était le meilleur lait, le moins gras, le plus digeste, le moins allergène. Que faut-il penser du lait de chèvre ?
Alors,
j'imagine déjà qu'il y a lait de chèvre et lait de chèvre.
Si on boit 1 litre de lait de chèvre contre 1 litre de lait de vache, il sera forcément moins gras. Mm-hmm. Mais par contre, quand on fait du fromage, il nous fera juste plus de fromage, plus de lait de chèvre pour faire 1 kilo de fromage que de lait de vache. Donc, la teneur en matière grasse vient de l'humidité du fromage. Quand on mange un fromage frais de chèvre ou de vache, il y aura quasiment la même teneur. Après, le lait de chèvre n'est pas plus digeste. C'est des fromages qui sont souvent frais ou demi-frais, donc très riches en lactose. Sa chaîne d'acides gras est assez longue, donc pareil, pas spécialement plus facile à digérer. On n'a pas d'allergie spécifique qui serait soignée par le fromage de chèvre, vu que la seule allergie qu'on a en France, c'est l'allergie à la caséine qui est présente dans les 3 laits. Donc c'est des discours qui ne sont pas très étayés aujourd'hui.
D'accord, ça c'est intéressant. Allez, une recette.
Oui, une recette rapide pour jouer avec les fromages.
Tout à fait originale, pour assaisonner, condimenter, pimper un fromage de chèvre, quel qu'il soit.
Et oui, parce que moi j'aime bien jouer avec les fromages de chèvre, et j'ai été un peu bluffé par Pablo du restaurant Les Saint-Jus à Saint-Julien-de-Faucon, qui est un de mes voisins en Normandie. Il faut y aller, François-Régis.
C'est une super table, paraît-il.
A fait une version de la sauce Laoganma, qui est une sauce qu'on trouve. Alors, on peut la trouver dans les épiceries asiatiques, mais elle est quand même pas mal pimentée. Et on a mis la recette en ligne, c'est un peu technique, un peu long à faire, mais avec du chef, c'est top.
Génial, alors goûtez. Il y a un côté un peu, c'est la sauce sichuanaise qui tamponne un peu et qui vient exciter les papilles.
Et il y a la cacahuète.
Voilà, et il y a beaucoup, beaucoup de
valeurs. Irrésistible.
C'est très, c'est umami, c'est tout ce qu'on aime, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une super sauce. On remercie le chef de Saint-Jus.
Pablo, du restaurant au Saint-Jus.
Au Saint-Jus, absolument, et je vais y aller. Et il y a des auditeurs qui nous engueulent parce qu'on n'a pas cité, évidemment, citez-moi s'il vous plaît,
les
Pierre,
autres appellations.
Ben, Bourgogne et le Long-du-Rhône.
Je vous les fais rapidement. Mâconnais, Charolais, Rigotte de Condrieu, Picodon, Pélardon, Brousse du Rove, Chevrotin, Bannon, Rocamadour, Motet-sur-Feuille, Chabichou, j'espère n'avoir oublié personne.
Non mais attendez, sans Bravo. Regarder ses fiches pour vous montrer à quel point il est pointu le garçon. Moi j'ai une affection particulière pour le Picodon. J'étais allé visiter Céline Berthier, vous savez, une chevrière qui fait un génial Picodon, super artisanal, c'est une reconversion. Un grand merci, cher Pierre, d'être venu avec vos fromages de chèvre, vos très très belles recettes. Vous revenez pour un autre thème laitier ou fromager avec un plaisir. Immense plaisir. Merci Justine Knapp. La semaine prochaine, on ramène notre fraise dans notre émission. La culture et la cuisine de la fraise, ce fruit emblématique qui est particulièrement de saison en ce moment. Les variétés qui nous font rougir de plaisir. On vous dit tout avec nos invités, nos reportages. Céline Maguet, Zazie Tavitian et Loïc Bienassis seront à mes côtés. À dimanche prochain. Si vous avez encore faim,